c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story. Très heureux de vous retrouver pour discuter, pour débattre avec vous au 32-16. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous. La pression monte.
Oui, parce que demain nous serons...
Alors il y a deux pressions.
Voilà.
Non, il y a la joie d'être demain à Marseille pour l'arrivée de la flamme, parce que c'est historique. Hein, dans une vie, on ne voit qu'une fois la flamme arriver dans son pays. Donc ça, c'est un événement historique qu'on va vous faire vivre dans les Grandes Gueules demain. Et puis il y a un autre événement historique ce soir peut-être, c'est la qualification de Paris en Ligue des Champions. Ça serait la deuxième fois, et c'est ce soir face à Dortmund, donc là, forcément, la pression monte.
Et vous avez l'expérience RMC, n'oubliez pas, à gagner, hein, d'ailleurs, vous avez deux places pour aller voir Paris Saint-Germain-Dortmund au Parc des Princes, c'est encore gagnable tout à l'heure. Pour ça, il faut envoyer PSG par SMS au 732-16, dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, donc allez-y, il ne faut pas vous gêner, cette expérience, vous pouvez la tenter.
Et la Ligue des Champions, c'est sur RMC, il démarre à 18h, jusqu'à 1h30 du matin, avec la libre antenne de l'After, donc Roten, Riolo, Bribois, toute la bande, Jean-Louis Tour, ils sont tous mobilisés pour nous faire vivre cette soirée exceptionnelle.
Et ça, c'est dans l'expérience RMC que vous le vivez aussi, vous vivez l'avant, le pendant, parce que vous filez au parc, et l'après avec les équipes. Alors aujourd'hui, Jérôme Marty, médecin généraliste, est avec nous. Bonjour mon cher Jérôme.
Salut à tous. Et Toulousain, parce que nous aussi on a un grand club, je vous rappelle que le Stade Toulousain est en finale de la Coupe d'Europe une fois de plus. C'est un grand club, c'est ça, c'est un club qui gagne, et qui gagne régulièrement.
Et puis Barbara Lefebvre est avec nous. Barbara Lefebvre, professeure d'histoire géographie. Bonjour,
bonjour
Barbara.
Les amis.
Et puis on attend
le
Antoine
petit gars
Diaz.
De Dunkerque.
Ouais, le gars de Dunkerque.
Il arrive.
Le gars de Dunkerque.
Ah, il est là. Vas-y, viens Antoine.
Alors raconte-nous tout.
Bonjour à tous.
Oh le pauvre, il est tout en sueur.
Pensez pour tous ceux qui prennent le train tous les jours et qui vivent les retards comme ça.
Vas-y, reprends ton souffle.
J'ai couru.
Mais fallait pas courir.
Non, t'aurais
attendu.
Je suis sportif, tu vois, c'est bientôt les JO. Ouais, départ de Dunkerque, un TER devant nous en panne, et donc tu prends une demi-heure dans la vue. Et donc on arrive à fond pour les GV.
Tu viens de Dunkerque en TER jusqu'à Paris ?
Alors, moi je prends un TGV. Mais le TER sur la voie devant nous était tombé en panne. Et c'est pas si rare, je regardais les chiffres parce que j'aime les chiffres. Et c'est 450 000 personnes chaque jour sur les 5 millions de voyageurs qui sont impactés par des...
Pauvres.
Ça fait quand même
Mon cher
on va laisser
Antoine.
Se proposer
10% des voyageurs.
Un sur 10.
Récupère ton souffle. On va parler avec vous maintenant. Tiens, premier sujet de discussion. Hommage à Bernard Pivot.
RMC, les Grandes Gueules.
Oui, parce que justement, on se demandait qu'est-ce que Bernard Pivot a changé dans nos vies toutes ces années, ces 15 ans où il a présenté apostrophe, bouillon de culture. Quel livre il nous a donné envie de lire? Qu'est-ce qu'il a éveillé en nous? On va prendre 10 petites minutes pour en parler avec vous au 32-16, bien sûr. On va réécouter Bernard Pivot. Vous vous souvenez notamment lorsqu'il avait reçu François Mitterrand pour discuter littérature.
Mais une chose qui m'avait frappé, c'est que tous les écrivains... j'avais dit, mais vous voulez parler de qui pendant... On avait préparé quand même au téléphone l'émission pour dire, vous voulez parler de qui? Alors il m'a dit, j'aimerais parler de Lamartine, de Jules Renard, de Buzzati, de je sais plus qui. Et quand il a dit, je me suis dit, mais sont tous des écrivains de droite.
Voilà, sa petite anecdote sur François Mitterrand. Bernard Pivot, sont des centaines d'émissions, sont des millions de téléspectateurs. C'était presque un rendez-vous, c'était la messe littéraire le vendredi soir. Il y avait Bernard Pivot qu'on regardait en famille pour se cultiver. C'était la fois, moi je me souviens, où je pouvais rester le vendredi soir à 12 ans, 13 ans, un peu tard devant la télévision.
Ça a duré 15 ans parce que pour la première fois, Apostrophe est diffusée le 10 janvier 1975 sur Antenne 2. Et ça sera le cas tous les vendredis soirs jusqu'en 1990. Et ensuite, il présentera Bouillon de Culture, qui était à peu près la même chose, parce que c'était ouvert à d'autres arts que la littérature. Il a symbolisé l'émission littéraire. Il n'a jamais été remplacé, même s'il y a de très bonnes émissions littéraires aujourd'hui. Il reste la référence en la matière. Parce que, alors c'est vrai qu'on parle quand même d'une télé que les moins de 20 ans, les moins de 30 ans n'ont pas connue. Hein. C'est une télé qui prenait le temps, ça durait une heure et demie, avec parfois des écrivains quand même qui étaient exigeants, qu'il fallait accoucher. Et sa force, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que il était on se mettait à sa place où il était à notre place, en fait. C'était le téléspectateur qui questionnait avec curiosité l'écrivain qu'il avait devant lui. Et c'est d'ailleurs l'écrivain qui était plus important que l'animateur, même si on retient Bernard Pivot, mais il a reçu les plus grands. Il a fait des coups extraordinaires, il a eu Solzhenitsyn, il a eu Nabokov, il a fait venir Mitterrand, il a révélé tous les grands écrivains qui ont marqué les années 70-80. Alors, je sais plus qui disait hier soir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus ces grands écrivains. Et peut-être qu'on aurait du mal à faire une émission à la hauteur d'Apostrophe parce que les invités seraient moins prestigieux que les invités que pouvait avoir Bernard Pivot.
Alors, qui se souvient de ces soirées, Bernard Pivot, Jérôme?
Ouais, c'était une institution. Il avait su le faire devenir. Il y avait en fait deux émissions à l'époque. On en parlait tout à l'heure qui étaient institutions. Il y avait Apostrophe et puis il y avait Droit de réponse de Michel Pollack. Tu avais une émission politique, donc, et puis une émission littéraire avec un... je sais pas comment on peut l'appeler, animateur, guide, etc., transmetteur, passeur, qui respectait profondément son public et les Français, parce que c'était une émission qui était construite sur l'intelligence, et donc il savait que l'intelligence pouvait être de n'importe quelle classe sociale. Il intéressait tout le monde. Il méprisait pas les gens, quoi. Il était profondément respectueux des Français, profondément respectueux de la langue française qu'il a défendue pendant des années, souvenez-vous de la dictée de Pivot. Oui. Et donc, ces choses-là, ça nous montre quand même un décalage. Bon, c'est ça qui m'a frappé, c'est que quand on regarde, qu'on se retourne comme ça en arrière, et qu'on se dit que ces émissions basées sur l'intelligence, basées sur la culture, faisaient des gros audimates à l'époque.
Pas, il n'était pas pédant, il n'était pas intello dans le mauvais sens.
Mais non, il n'était absolument pas intello. Il était... un Français qui interroge justement des grands écrivains, il amenait tout le monde à la compréhension et à l'intéressement par rapport à cela. Et tu as un décalage terrible avec les émissions qui font de l'audimat aujourd'hui, qui sont basées, il faut le dire quand même, souvent sur la bêtise. Donc c'est, moi, à mon avis, s'il y a un déclassement de la France, il est là. Il est dans sa perte culturelle et d'intelligence.
Ah, Antoine, pardon. Non, vas-y.
Non, mais moi, Antoine, il n'a pas connu.
Moi, j'ai pas connu.
Voilà,
mais non. Moi, j'ai 35 ans.
Ah oui.
J'ai 35 ans et j'ai pas du tout connu. Et effectivement, ça me parle pas du tout. En revanche, de la façon dont vous en parlez, ça va alimenter encore mon côté. C'était mieux avant. Il y avait donc avant sur le service public le vendredi soir. Il y avait une émission intelligente. Mais c'était quoi ce pays? C'est formidable. Il y avait des choses intelligentes à la télé. Donc vraiment, moi, j'ai jamais regardé une émission de Bernard Pivot de l'époque. Et là, vous me donnez envie d'aller voir comment c'était. En plus, j'adore le style vestimentaire de ces années-là, etc. Voilà. Donc
les grosses cravates,
le col Pellatard,
les gros nœuds de cravate.
Ouais. Bah, moi, je suis née en 72 et j'ai eu mon bac en 90. Donc autant vous dire que je suis vraiment dans les années Pivot. Et comme en plus mes parents étaient vraiment, les grands amoureux.
Tu m'as dit que tes parents t'obligeaient à regarder Pivot.
À un certain âge. C'est-à-dire, au début, non, parce que quand j'avais 7-8 ans, eux, ils regardaient tous les vendredis, ils regardaient Pivot. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été en 3e et au lycée, ma mère considérait que c'était une forme d'obligation de regarder Pivot. Alors, parfois, je regardais pas tout parce qu'il y avait des fois des invités qui me fatiguaient un peu. Et des fois, je comprenais pas tout. Mais ça a alimenté en partie ma passion et mon amour de la littérature, parce que je suis prof d'histoire, mais j'ai longtemps hésité à être prof de lettres. Et donc, il y a aussi une chose que je voudrais dire sur Pivot, c'est que c'était pas le valet de la doxa de son époque. Parce que les années 70, 80, 90, il y avait le politiquement correct aussi, il y avait la doxa de l'époque, etc. C'était pas le valet de certains politiques, c'était pas le valet des éditeurs, c'était pas le valet des critiques littéraires qui le lendemain allaient dire ci ou ça. Il avait sa façon de voir les choses. Il était un passeur de littérature, un passeur de, comme tu le disais, Jérôme, un passeur de mots. Il a jamais accepté la Légion d'honneur ni la récompense des arts et des lettres. Parce que précisément, il disait que lui, il se sentait pas mériter une telle récompense et que peut-être d'ailleurs, il aimerait peut-être pas forcément être à côté de ceux qui ne la méritaient pas, mais qui l'acceptaient. Donc je pense que vraiment, c'est vraiment, le français, il vient d'un milieu populaire. C'est un enfant d'épicier, un fils d'épicier.
À Lyon.
Merci à l'école de la République, quand l'école de la République était à la hauteur et qu'elle permettait ce genre d'émancipation qui ensuite allait devenir un grand monsieur du journalisme et qui allait permettre à tant de millions de Français
de lire
et de se passionner pour les mots. Regardez aujourd'hui où on en est, excusez-moi. C'est pas seulement qu'il y a beaucoup de chaînes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes avant.
Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de chaînes non plus, il y avait 3 chaînes.
1, 2, 3, bon, tu revenais vite à la 2.
Et tu ne savais pas parce que tu n'avais pas de télécommande.
Non, il fallait se lever
pour changer de chaîne.
Et je me levais souvent, c'est on m'envoyait.
C'est l'enfant qui y avait.
C'était les enfants qui changeaient de chaîne.
On a même connu l'époque où on tournait le bouton.
Exactement.
Mais aujourd'hui, tu as une grande proposition, tu as une large proposition d'émissions littéraires. Excusez-moi, je ne vais pas donner de nom parce que j'aime pas ça.
Si, on a
mais regardez les émissions littéraires aujourd'hui. Non, c'est justement. Tu as des valets, tu as des petits valets.
Ouais, et c'est coincé.
Ils reçoivent l'auteur et ils lui servent la soupe. Et on te sert la soupe et on te sert la soupe. Et on débite des vérités toutes faites sur. Alors il y a les méchants, il y a les gentils. Chez Pivot, il n'y avait jamais les méchants et les gentils, il y avait la littérature.
Attends, on a un témoignage qui vient d'arriver au 32-16. C'est pour ça que j'adore les GG et le 32-16. Parce qu'il suffit qu'on dise qu'est-ce que Pivot éveille en vous pour tuer quelqu'un qui a un souvenir et qui nous appelle. Et c'est Roberto, qui est des Alpes de Haute-Provence, qui est un ancien journaliste à la Provence. Bonjour Roberto.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour au grand gueule. Oui, j'ai un souvenir ému de Bernard Pivot parce que, en tant qu'ancien journaliste à la Provence, je connaissais très bien également Edmond Charleroux, qui à l'époque était président de l'Académie Goncourt, et son meilleur ami, c'était Bernard Pivot. Et un jour, vous savez, à côté de Manosque, il y a un petit village qui s'appelle Bannon, où il y a ce réputé fromage, et il y a une librairie extraordinaire à Bannon qui s'appelle Le Bleuet, qui est une des plus grandes librairies de France maintenant, alors que le village compte 800 habitants. Et j'ai convaincu Edmond Charleroux d'aller faire une séance de dédicace le jour de la fête du fromage, dans cette librairie, et elle m'a dit, bah, tiens, j'ai demandé à Pivot s'il veut venir. Et j'ai été chercher Pivot au TGV à Aix, je l'ai ramené chez Edmond, à Saint-Antonin-sur-Bayon. On a dîné ensemble, et le lendemain matin, nous sommes allés à Bannon. Et là, ça a été la grande fête. Mais Bernard, depuis, on est toujours resté en contact, il m'écrivait, on échangeait souvent des SMS. Et jusqu'en 2022, où il a commencé à être malade, et je l'ai vu, bon, il décrivait plus. Mais avant, et ce qui est génial, c'est que avant de se rendre donc à Bannon, il s'était renseigné, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il c'était un amoureux du vin et du vin rouge, notamment du Beaujolais. Ouais. Il s'était renseigné parce qu'à côté de Bannon, à l'époque, il y avait un petit village, je crois qu'il s'appelle Soman, où il y avait un petit bistrot de pays où on servait un plat du jour, mais qui avait des bouteilles de vin extraordinaires. On avait du château Cheval Blanc, etc.
Ah ouais.
Et donc, et il m'avait demandé, mais à midi, on mange où? Alors, j'ai dit, ici, sur place, et ah, mince, parce que j'avais repéré un petit village à Soman. Et voilà. Et donc, c'était quelqu'un de merveilleux, quoi, très gentil.
Et de sympa, discuter facilement et tout aussi, Roberto.
Oui, absolument, très très facilement. Et alors, il était tombé en admiration devant cette librairie au Bleuet, parce que il regarde le rayonnage et puis il m'a dit c'est pas possible. Alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit ça fait 20 ans ou 30 ans que je cherche à Paris mon premier livre que j'ai édité, qui s'appelle « Oh là là, la vie » ou « La vie, oh là là », je ne me souviens plus. Je ne l'ai jamais trouvé parce qu'il n'a jamais été réédité et je viens de le trouver ici, sur ce rayonnage. Donc, il était ravi. C'est pour ça qu'il avait gardé un souvenir très ému de Bannon, de son fromage et de sa librairie. Voilà.
Merci d'avoir partagé ce souvenir avec nous, Roberto.
Je vous en prie.
Merci.
Et bravo pour vos émissions très sympathiques et toujours bien construites et intéressante.
Merci. Si demain vous êtes du côté de Marseille, si vous avez le temps, Roberto, passez nous voir du côté du Mucem. Merci Roberto, bonne journée.
Merci,
à bientôt.
Bonne journée à vous.
À bientôt pour les GG. Et tiens, puisqu'on parle littérature, vous avez un livre de chevet? Un livre que de temps en temps vous reprenez pour relire ne serait-ce que quelques pages ou pas? Barbara?
Ah ben moi, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Parce que c'est le livre qui m'a fait le plus grand choc littéraire. Et comme Flaubert le disait, c'est un livre sur rien. C'est-à-dire que quand on a fini les 750 pages, on se dit, mais toute cette histoire, tu ne mènes à rien avec ces personnages qui ont des vies, qui vivent un moment historique incroyable, qui est la révolution de 1848. Mais au final, il reste que leur petite histoire personnelle qui, en plus, n'est même pas un grand aboutissement. Et donc, voilà, c'est Flaubert, c'est de toute façon toujours sur ma table de nuit.
Jérôme,
le Vidal?
Ah, Omar, je peux consulter en tant qu'hypochondriaque, ça m'arrive.
Non, sinon pour la littérature classique, Les Misérables de Victor Hugo, je crois qu'on fera jamais mieux. Et après deux romans fiction classiques, un de Barjavel, La Nuit des Temps, et puis un autre qui est Empire du Soleil, dont est tiré le film de Spielberg. Qui en livre est un monument et qui décrit donc la vie d'un jeune garçon qui se fait emprisonner dans un camp à Shanghai à l'époque où le Japon avait envahi la Chine en 1945 et qui va construire sa vie sur les rapports humains au sein d'une prison et enlever justement tout ce qui est violence et permettre à ce que la violence diminue au sein d'une prison.
Et toi Antoine?
Livre magnifique.
Moi, j'ai pas de livre de chevet. Ce serait pas vrai si je vous disais que j'avais un livre à côté de mon lit. Mais j'ai un livre que je relis régulièrement depuis que j'ai 18 ans. Ça va pas vous surprendre. C'est Le Camp des Saints de Jean Raspail. Un livre dont l'auteur lui-même disait qu'il aurait été interdit aujourd'hui. Je l'ai lu à 18 ans Et c'est ma claque en termes de littérature. J'ai lu beaucoup d'autres choses, mais Le Camp des Saints, bah, c'est écrit dans les années 70, si je dis pas de bêtises, par un grand auteur, Jean Raspail, qui décrit la façon dont un bateau de migrants africains va arriver sur nos côtes et dont les bonnes âmes vont dire nous devons les accueillir. Et il y aura dans le roman très peu de gens pour dire non mais attendez, on peut pas accueillir toute l'Afrique. Et ben je trouve que ce truc-là était visionnaire et que j'invite tout le monde à le relire aujourd'hui parce qu'on est pile dans le débat.
Non mais Jean Raspail,
on est marqué par ses premières lectures.
Sur un point, ouais. Je suis d'accord avec Antoine. Jean Raspail est un très grand écrivain français, très méprisé par le politiquement correct. C'est un grand voyageur qui s'est beaucoup intéressé au peuple, justement, qui s'est beaucoup intéressé à l'identité des peuples et notamment au peuple des Inuits, etc. Il avait écrit des textes magnifiques, Terre des Hommes, etc. Donc, faut pas mépriser Jean Raspail, c'est un très grand écrivain.
Et puis, un dernier mot, parce qu'hier, quand on a appris la mort de Bernard Pivot avec Olivier, on était à BFM TV, puis on présentait BFM Story, on avait en ligne Fabrice Lucchini, que l'on salue, parce que Fabrice Lucchini nous a surpris hier, alors qu'on était en plein hommage à Bernard Pivot, à faire l'éloge des GG.
Vous êtes étonnants tous les deux parce que vous êtes d'une famille pas lointaine de Pivot parce que vous êtes dans la filiation, non, c'est très... Alors vous vous occupez pas trop de littérature, vous êtes plutôt grande gueule, mais enfin vous êtes plutôt grande gueule dans le bon sens, hein, dans votre émission, mais vous êtes très bon et je suis sûr que Pivot vous aimez bien. Vous êtes émission où il y a des gens qui s'engueulent, qu'on signe avec le jeune homme très utopiste, José, comment il s'appelle, le gauchiste là.
C'est
Bruno Poncet.
Alors justement,
c'est Bruno Poncet.
Ah oui.
Mais bon voilà, Monsieur Lucchini, c'est quand vous voulez.
Mais il écoute et regarde les grandes gueules. On
dans
le
les
savait,
GG,
mais
dans les grandes gueules.
Qui viennent dans les grandes gueules. Donc mais Fabrice, oui. Si tu nous écoutes, on t'attend.
Et j'aimerais parler de Flaubert avec lui.
Allez, dans un instant, suite des GG après Bernard Pivot, la dame pipi de la gare Montparnasse licenciée parce qu'elle a pris une pièce simplement qui normalement aurait dû revenir à la société, mais elle l'a mise dans sa poche. Elle s'est faite lourder. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Dierce, consultant auprès des entreprises, Jérôme Marty, médecin généraliste, et Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie. On va évoquer l'histoire de cette dame pipi de la gare Montparnasse.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe donc gare Montparnasse, au mois de novembre dernier, une salariée qui est responsable des sanitaires virée parce qu'elle a eu le malheur de prendre une pièce qui avait été laissée déposée sur le comptoir.
De nettoyer les caca pendant 6 ans. 1 euro d'or, vous me mettez dehors. Et vous me prenez 6 ans dans ma vie. C'est pas normal. Et j'étais choquée, même je demandais pardon. Eh ben non. Ils m'ont jeté, j'ai rien à foutre. Même mes papiers par chômage, ils m'ont pas envoyé. Moi, j'ai accepté ce boulot, faire nourrir mes enfants. Je l'ai accepté parce qu'on n'a pas été à l'école. Et aujourd'hui, qu'ils me virent pour 1 euro, 2 euros, c'est injuste. C'est injuste. Eux, ils m'ont volé pendant 6 ans dans ma vie. Le dimanche, la nuit, les jours fériés, tout ça, je n'étais jamais payé pour ça. Jamais. Et aujourd'hui, ils me disent comme quoi j'ai volé 1 euro. Vous trouvez que c'est normal, vous? Moi, non.
Alors c'est le désespoir de cette femme, c'est vrai que on est dans une situation assez incroyable et qui permet d'apprendre déjà, moi je ne savais pas, effectivement on a appris ça avec Olivier ce matin,
oui.
C'est-à-dire que la gare Montparnasse, les toilettes de la gare Montparnasse sont gérées par une société néerlandaise.
Mais ça va plus loin, c'est que les plus grandes gares de France sont gérées, les toilettes publiques des plus grandes gares de France sont gérées par une entreprise étrangère, par une entreprise néerlandaise. Même ça, on n'arrive pas à le gérer. Ceci dit, on a donc une femme qui explique qu'en novembre dernier, elle a 53 ans, elle travaillait dans la société depuis 6 ans. En novembre dernier, un client lui laisse 1 euro sur le comptoir, un pourboire selon elle. Donc elle prend cette pièce. Le problème, c'est qu'elle est filmée. Donc l'employeur la convoque et lui dit pour nous c'est du vol, cette pièce de 1 euro ne vous revenait pas. Alors elle essaye de s'expliquer, elle dit qu'elle n'a jamais reçu d'avertissement et ensuite elle a été virée. Alors on n'a pas pour l'instant la version de la société, mais on voit bien quand même qu'il y a un problème. On a une société visiblement qui est particulièrement dure avec ses salariés dans des boulots quand même très compliqués, c'est ce qu'elle dit elle-même. Est-ce que c'est un véritable scandale? Comment faire pression sur cette société néerlandaise?
Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme, cette histoire ?
On est en plein dans les dérives de nos sociétés avec la financiarisation, quoi. Et l'exploitation d'un certain nombre de salariés dans des systèmes où on se fout éperdument à la fois et de la santé, du bien-être et de la qualité de travail et de tout ce qu'on veut, quoi. C'est un euro pris par une dame et on la vire. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de papier donné, il n'y a rien.
L'entreprise affirme que la société ne fonctionne pas avec un système de pourboire.
Oui, non, elle fonctionne pas.
Les employés doivent verser des pourboires dans la caisse.
La société, elle prend la sous-traitance donc des toilettes de la gare
Montparnasse.
Et une trentaine de gares au total.
Une trentaine de gares, ce qui prouve quand même, si elle le fait, comme la société n'est pas bienfaitrice de l'humanité, on peut supposer que ça lui rapporte. Et pour rapporter ce genre de choses, eh bien, on ne paie pas ses salariés ou on les paie mal, on les fout dehors facilement, on ne respecte pas forcément les lois du travail, mais ça on le verra puisqu'elle va au prud'homme, je crois. J'espère bien qu'elle gagnera au prud'homme. Enfin, c'est l'ubérisation des toilettes, quoi. On se souvient tous, on a connu les dames pipi. Effectivement, elles fonctionnaient justement au pourboire et elles étaient relativement mal payées. Et c'est quand même des postes où, étymologiquement, elles sont là pour nettoyer notre merde, quoi.
Alors visiblement, plusieurs employés, selon France Télévisions qui a enquêté, plusieurs employés auraient été mis à pied ces derniers mois. Pour des mots abusifs, un employé aurait été congédié pour un retard de 20 minutes.
Non mais la question...
Congédié, Dirce.
Cinq minutes.
Une autre question qui se pose, excusez-moi, l'appel d'offres au niveau des gares, il n'y avait que les Néerlandais. C'est-à-dire que dans les appels d'offres, il n'y a pas une entreprise française.
Sans doute.
Donc moi je suis désolée, il y a un certain nombre de marchés. Enfin, moi, je suis pour que certains marchés... Alors, bien sûr, là, ce n'est pas un marché public, hein, parce que j'imagine que les bâtiments, des gares, on va encore nous expliquer que c'est même plus à l'État, tout ça, vu qu'on a tout vendu. Enfin, moi, je suis désolée, il y a un certain nombre de marchés, y compris des marchés comme ça, ça devrait être réservé à des entreprises françaises. Alors, je ne comprends même pas, on est obligé d'avoir des entreprises néerlandaises qui, apparemment, ne comprennent pas bien le droit du travail français. Donc, j'espère vraiment que cette dame va avoir un avocat et des syndicats qui vont l'accompagner pour qu'au prud'homme, elle l'ait... saigne bien comme il faut, parce que c'est cette entreprise-là, si effectivement ils l'ont licenciée, et qu'en plus, d'après ce qu'elle a l'air de dire, et ça il va falloir qu'elle le prouve au prud'homme, il y a eu des heures sup, des heures de nuit qui n'étaient pas payées, majorées, excusez-moi, c'est de la maltraitance et du non-respect du droit du travail. Et donc maintenant on est informé que les toilettes des gares, et à mon avis les toilettes des aéroports, parce que ça ressemble avec leur machin à tourniquet là, parce que c'est quand même pas donné, hein, c'est un euro ou deux euros pour avoir droit d'aller aux toilettes, hein. Bon bref, donc j'espère que maintenant on va nous faire un petit audit et on va se rendre compte donc que ces entreprises ne sont même pas des entreprises françaises. Bravo, chapeau bas.
Bon, surtout que To The Loo, l'entreprise néerlandaise, se présente comme une entreprise écologique,
qui réinvente
les toilettes. Quand tu vas sur leur
réinvente les toilettes.
Oui,
c'est-à-dire
sur leur portable, la manière dont on va aux toilettes, la manière dont on repense les toilettes.
C'est le
nom de l'entreprise qui veut dire aller aux toilettes.
Mais faut reconnaître que les toilettes des gares sont propres.
C'est propre par ce système-là. Alors, moi j'entends la détresse de cette dame, je la partage complètement. Si elle a travaillé, qu'elle n'a pas été payée, c'est intolérable, etc. En revanche, je comprends aussi pleinement le règlement intérieur de la société qui dit pas de pourboire. Parce que tout le concept de ces toilettes-là, c'est que on paye à l'entrée, et si après chaque employé vient demander la petite pièce
en plus. Non, il vient pas demander le pourboire, c'est volontaire. Mais, tu fais si tu veux, tu laisses. Si tu veux pas, tu laisses.
Si le règlement de la société l'autorise, ils vont tous mettre un pot. Si le règlement de la société autorise à donner un pourboire.
Mais moi, il y a un pot, je me sens pas obligé de mettre la pièce.
Les gens se sentent obligés.
Non, pas moi.
J'essaye simplement de comprendre le raisonnement de la société.
Et donc, la société,
considérant que le toilette est payant à l'entrée, que le salarié est rémunéré, la société a interdit dans son règlement intérieur le pourboire. Pour pas que les gens se disent, attendez, je vais payer en passant le tourniquet et je vais me sentir obligé de remettre derrière, c'est beaucoup trop cher. Et donc, moi, je comprends le fait que le pourboire puisse être interdit. Je suis désolé pour cette dame, je pense pas qu'on doive être viré pour un euro.
Métier elle doit être même pas au SMIC.
Et si ça se trouve, elle habite pas être en dessous du SMIC.
Elle habite à 2 heures de RER. Donc moi, je suis désolé, c'est normal que pour ce genre de métier, ils sont déjà très mal payés, qui ont une forme d'utilité sociale, qui est des pourboires.
Non, je me demande même si ça n'était pas dans le cahier des charges de Gare et Connexion, de pas avoir de pourboire, etc., dans une logique un peu.
Non, mais si tu enlèves le pourboire,
dans une logique un peu esthétique.
Si tu enlèves le pourboire de ce genre de métier, tu enlèves aussi le regard, quoi. parce que ce qui te fait regarder,
justement. Moi, je dis bien bonjour, merci.
Ils sont là, et le respect que tu peux avoir avec eux, tu le traduis par le pourboire, justement. Et c'est pas, pas trop cher de donner 50 centimes d'euros ou autre en pourboire à quelqu'un qui a un des métiers les plus ingrats qui puisse exister, les plus mal payés. Il faut pas quand même. Enfin, tu veux dire, c'est parce que la prochaine étape, tu as enlevé le pourboire. La prochaine étape, tu enlèves la personne, automatiquement.
Mais non.
Et tu vas pisser à l'étranger, tu vas faire un tour en Hollande, quoi, ou un truc.
Mais dans la vision de la société. Dans la vision de la société, si l'agent peut prendre des pourboires, l'agent, il va baisser la barrière en disant, ouais, vous mettrez un pourboire, allez-y, rentrez,
etc.
Mais
non, il peut pas faire ça.
Une drôle de façon de
faire. Bien sûr qu'il
peut pas faire ça. Mais il y a des caméras, il peut pas faire ça. Il est surveillé. Et puis, ils vont bien voir si ça se trouve même dans le bidule qui tourne là, le tourniquet, il doit y avoir un truc automatisé qui décompte le nombre de fois où le tourniquet il tourne et qui donc fait le calcul pour voir combien il y aurait de pièces dans la machine. À mon avis, ce genre de truc, tu peux pas trop
arnaquer. Mais les plus gros escrocs travaillent pas dans les toilettes.
Je parle pas d'escroquerie.
Frédéric qui va en parler avec nous. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour les GG.
Vous nous appelez de Seine-et-Marne, c'est ça? Vous êtes agent de la fonction publique. Vous pensez quoi de cette histoire alors, Frédéric?
Moi, je trouve ça, cette histoire, inadmissible. Je trouve vraiment dommage qu'on puisse virer une personne donc qui fait, comme l'a rappelé une personne sur votre plateau, qui fait un métier ingrat, je veux dire, de nettoyer les toilettes à longueur de journée ou autre. C'est un métier vraiment ingrat, difficile. On s'en prend toujours parce que, bien sûr, souvent des personnes d'origine étrangère, donc qui se laissent faire, qui acceptent parce qu'il faut le voir dans les deux bouts. Donc oui, certainement qu'elle est payée en dessous du SMIC. Je trouve inadmissible aussi que ce soit des sociétés étrangères qui gèrent ce genre de toilettes.
Visiblement, elle est spécialisée. C'est une société qui est spécialisée, qui est réputée pour ça.
Et le service est
depuis,
bon.
Depuis 20 ans une quinzaine d'années à Amsterdam, aux Pays-Bas, ils ont acquis une certaine réputation. Bon, si c'est une société qui
c'est la meilleure,
c'est pas embêtant, Frédéric. Voilà.
Oui, mais bon, je veux dire, moi-même.
Pas donner de préférence nationale à la gestion des GOG, quand même.
Enfin, au niveau des gares, les gares, c'est un lieu public ou autre. Et déjà, je trouve inadmissible le fait qu'on puisse aller faire pipi et payer. Ce qu'on dit
Mais ça
souvent.
Paye l'entretien des toilettes. Et c'est que comment les toilettes de gare avant? Est-ce que c'était propre avant? Moi, j'ai pas de souvenir. Je me souviens que de ce système-là. Mais quand ça devait être en libre service, moi, je vois tout ce qui est en libre en service, c'était dégoûtant. Donc,
alors que là, il faut reconnaître. Moi, j'ai été une fois. C'est propre.
Bah oui. Alors donc, la propreté, donc ça a une importance, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, enfin, moi, ce que je trouve lamentable, c'est vraiment de virer cette bonne femme pour avoir accepté un euro de pourboire. Moi-même, je suis déjà allé. Je vais souvent à la gare du Nord ou autre, où je ne dirais pas par pitié, mais par reconnaissance et par respect du métier qu'elle fait, je laisse souvent un euro et quelquefois même plus, 2 euros.
Même si vous payez avant pour le tourniquet ou autre, puisque maintenant on peut payer avec son téléphone aussi, on peut payer avec sa carte pour entrer dans certains
points.
Vous laissez quand même un petit pourboire derrière.
Oui, parce que je trouve que c'est un métier pénible, difficile, et donc je me doute que souvent ces gens qui sont employés donc sont là vraiment parce qu'elles ont envie de travailler, qu'elles acceptent un peu n'importe quoi donc pour vivre, survivre, et donc moi je trouve respectable.
Donc en fait, vous dites l'entreprise devrait accepter les pourboires.
L'entreprise devrait mettre une clause en disant un usager des toilettes veut laisser un pourboire, que ça soit accepté. Voilà.
Merci Frédéric, merci d'avoir été.
Merci beaucoup, GG.
Oui, le règlement paraît quand même un peu tatillon.
Ouais.
Quelque peu.
Voilà.
On verra comment cette histoire tourne et comme.
Bonne journée à vous, les GG.
Merci.
Parce que là, en fait, ils acceptent les pourboires, d'après ce que j'ai lu, mais ça va à la société.
Oui,
ça va à un pot qui est un pot commun.
Oui, alors donc la question, est-ce qu'ils redistribuent sous forme de prime à leurs salariés? Peut-être qu'ils distribuent plutôt des primes aux managers.
Non, mais c'est comme dans les restaurants. Si les pourboires sont partagés, il n'y a pas un serveur qui peut prendre le pouvoir pour lui, le restaurant.
Tu te souviens,
il y avait la pipi.
Oui, bien sûr. Oui, mais souvent, la dame pipi n'était payée que par ses pourboires.
C'est là que je ne comprends pas. Comment vous voulez qu'il y ait des pourboires dans cette société? C'est-à-dire, les gens mettent plus que ce qu'il faut dans la machine.
C'est une espèce de réflexe.
Je pense que c'est un réflexe. Et puis, je pense que
tu laisses systématiquement.
Comme notre ami qu'on avait à l'instant au 32-16, c'est que tu te mets à la place, tu dis quand même, c'est un métier difficile, un métier quand même parfois peut-être jugé ingrat, et donc tu mets une pièce. Voilà.
Puisqu'on parle de Dame Pipi, j'ai en souvenir l'une des plus célèbres Dame Pipi du cinéma français. C'est un film qui s'appelait « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ».
C'est un chef-d'œuvre.
Avec Jean Lefebvre et Bernard Blier, et la Dame Pipi à la gare Saint-Lazare ou à la gare de Lyon, c'est Cilla Shelton.
Oui. Ah, de, génial.
Je sais pas si tu te souviens, mais Jean Lefèvre et Bernard Blier jouent le rôle de deux braqueurs qui vont essayer d'accéder à la salle des coffres en passant par les toilettes de la gare. Seulement, il y a un hic, et le hic, c'est la Dame Pipi, interprétée par Cilla Shelton. Un chef-d'œuvre de Jacques Bernard, si je me souviens bien.
Cilla Shelton.
Je vous recommande.
Cilla Shelton de la Comédie Française.
Et qui,
bien
et qui a été la prof de théâtre du Splendide.
Ouais.
Junio, l'Ermite et toute la bande ont été formés par cette grande comédienne.
Pour nos auditeurs, on précise, c'est Tati Daniel, Cilla Shelton.
C'est
Tati
Daniel.
C'est ça qu'elle s'est fait connaître, mais c'était une très grande comédienne.
Apostrophe de Bernard Pivot, c'était Monsieur Cinéma, là maintenant. Oui. Grâce. Alors. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Un chef-d'œuvre du cinéma français. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, c'est le on s'en fout pas.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Jean Alain. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefèvre, Antoine Dirce, Jérôme Marty. Les amis, quel heure est-il? 9h42, on dit aussi 10h moins 20. Il est temps d'accueillir Anaïs Sainz.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Pardon Barbara, t'adores nettoyer.
Ah ouais, j'adore.
T'aimes bien faire le ménage?
Ah ouais, j'adore. Parce que, ça,
alors,
moi aussi,
voilà, je vais vous raconter. Pendant la pub, j'ai retrouvé rapidement sur mon portable et sur YouTube un extrait de ce film dont je vous parlais. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, avec Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefèvre, et donc l'histoire de la Dame Pipi. Et là, il y a Barbara Lefèvre qui est en train de dire, moi j'adore nettoyer.
Oui, moi j'aurais, si j'avais rien d'autre à faire, j'aurais pu faire Dame Pipi. Hein. Enfin, bon, quand t'as pas de boulot, tu fais Dame Pipi. Ça m'aurait moins dérangé. Moi, femme de et ménage, Dame Pipi, j'aurais
quand
pu.
Quand tu fais le ménage, quoi, ça te
vide
la tête. J'adore,
je fais le ménage tous les jours, moi.
Ouais.
Tous les jours.
Bah, ça m'étonne pas.
C'est très propre chez moi.
Oui, bon. Ça, c'est bizarre, ça m'étonne pas.
Tous les jours.
Ça va être bien rangé aussi.
Très bien rangé. Des fois même, j'aligne les fils.
T'es un peu maniaque. C'est-à-dire que si, par exemple, on vient chez toi et qu'on déplace légèrement un vase, quelque chose, ça te gêne.
Il n'y a que mes animaux qui ont le droit de se déchausser quand on arrive.
Ah oui, bien sûr.
Oh là là,
mais là, chez moi. Ah non, tu enlèves tes chaussures à la maison. Ah, j'ai horreur de ça. Tu vas pas marcher avec tes chaussures dans ma maison. Non, mais attends.
Bah oui.
Il n'y a que mes animaux, je te dis, qui peuvent me ramener de la poussière. C'est tout. Par contre, ils m'en ramènent de la poussière. C'est l'horreur.
Bon, allez, on y va pour l'ensemble, on s'en fout pas.
Donc, les GG, deuxième journée de visite en France pour Xi Jinping. Et on a le menu, les bons petits plats dégustés hier soir par le président chinois et sa femme, reçus en grande pompe par Brigitte et Emmanuel Macron lors du dîner d'État à l'Élysée. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ah ben non, on s'en fout pas, je veux savoir ce qu'ils ont.
Voilà, merci Barbara. Antoine.
Ah, moi aussi, j'ai faim, je veux savoir.
Jérôme.
Non, on s'en fout pas, non.
Alors, en entrée, chair de tourteau et caviar au siètre d'Aquitaine sous un voile de fleurs. Le hors d'œuvre, les GG, suprême de poulette, pas de poulet,
hein,
de poulette
pauvre.
De Bresse, aux pousses d'épinards accompagnées de sa printanière de Maury au vin jaune du Jura.
Puis, hommage à Consigny, le Jura.
Alors, puis, galoche au thym et petite pousse.
Qu'est-ce que c'est?
Galoche. C'est quoi une galoche?
J'en sais rien.
Tu vas prendre une galoche?
C'est une baffe?
Ouais.
C'est moi, je connaissais rouler une galoche.
Rouler une galoche.
Ah,
rouler
une galoche.
Ah, rouler une galoche.
C'est rouler une galoche. Patin.
Ursula
du rouler
une pelle. Ursula du rouler une pelle.
Pardon Anaïs.
Ah, voilà, rouler une pelle.
C'est vraiment une émission de la Celta ce matin.
Pour terminer en douceur.
C'est un fromage de brebis,
ouais,
la galoche.
Fromage,
ah, d'accord.
C'est ce que je me disais.
Pour terminer en douceur, fraises de printemps sur leur lit de meringue craquante et de chantilly à la fleur de
sucre. Oui,
ça, c'est des fraises à la chantilly. Quoi.
On en fait trop ou pas pour Xi Jinping?
Attends, il faut vous préciser que c'est chaque fois un chef étoilé.
Oui, oui, oui.
Par contre, je ne sais pas si c'est
chaque plat différent.
Ah bah plein de bons vins magnifiques.
On l'aurait voulu savoir, oui, les vins, ouais.
Non mais notre patron, y était notre futur patron, Rodolphe Saadé. Patron de CMA-CGM, il était au dîner. J'espère qu'il s'est régalé.
Tiens, en photo, je vois le mec
échappé,
du PSG.
Ça t'a pas échappé.
Sur la photo, je vois le bonhomme du PSG. Qu'est-ce
et nous,
là
ce soir, on mange vrai, quoi, ouais. Marseille.
On verra ça. Mais ce soir, aujourd'hui, c'est le tourmalet pour Xi Jinping.
Oui, parce qu'en fait, Emmanuel Macron emmène son homologue chinois à la Mongie, là où le président a passé beaucoup de vacances, chez sa grand-mère, parce qu'il a une passion, il a une passion pour sa grand-mère, qui l'emmenait skier à la Mongie, et ils vont d'ailleurs manger dans une auberge qui est pas loin de là.
L'étape du berger.
Voilà, l'étape du berger.
Oui, parce que quand il était allé en Chine, Xi Jinping avait emmené Emmanuel Macron
dans sa ville natale.
Dans sa ville natale, et donc, en fait, c'est pour ça que Emmanuel Macron.
La question que je vais poser aux grandes gueules, est-ce qu'on a raison de rentrer comme ça dans l'intimité, d'accueillir un homologue chinois à qui on peut faire beaucoup de reproches, jusqu'à le faire venir là où on a grandi. Ça vous choque ou c'est normal, ça fait partie des...
Emmanuel
des
Macron, il aime bien dérouler le tapis rouge aux tyrans. Hein. Alors qu'on a eu droit à Poutine, après maintenant Xi Jinping...
En même temps, autour de la planète, il y a plus.
Il y a pas que lui, hein, Sarkozy. Vous avez quand même obligé d'avoir la tente de Kadhafi dans les jardins. Non.
Mais enfin, la diplomatie, je comprends bien. Ça implique non, mais t'as raison, des efforts comme ça.
Les intérêts de la France. À la
On lui a offert du cognac.
Pendant ce temps-là, en tout cas, j'espère bien sûr que nos brillants étudiants vont bloquer les facs pour les Ouïghours. Donc, j'attends là.
Est-ce que Antoine, toi, ça te choque?
Moi, ça me choque pas.
On déroule le tapis rouge pour le président chinois.
Ça me choque pas. Moi, j'ai souvenir de cette photo de Boris Eltsine et le président américain
Clinton.
Mais
Clinton dans un fou rire.
Ils sont même au volant dans une voiture, etc. Ils ont passé un bon moment ensemble. Ça ne règle aucun problème. Les Ouïghours seront toujours en difficulté. En revanche, je pense que créer des moments d'intimité comme ça, ça peut aider dans diplomatie, dans les grandes crises, etc. Et donc, je suis pas dupe, il va pas ressortir grand-chose de la visite du président chinois. Mais je crois pas que traiter mal les gens va aider à quoi que ce soit.
Mal les traiter, donc, je t'ai dit, on peut limiter le tapis rouge et les ors de la République.
Mais difficilement faire moins.
Les ors de la République, c'est ce qui s'est passé hier soir. C'est pas ce qui va se passer dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, au contraire, ils l'amènent...
C'est moins protocolaire.
C'est au centre de la vie française, quoi. C'est ce qu'il a connu lui quand il était jeune. C'est le terroir. C'est des gens qui ont les pieds ancrés dans le sol, quoi. Et ça ramène un petit peu plus aux valeurs humaines, justement. Moi, je suis un peu comme Antoine. C'est des histoires d'hommes. Donc, s'il y a des petites choses qui peuvent se nouer là-dessus, après, c'est des tractations diplomatiques entre deux pays. Ces gens-là sont clairement les ennemis des démocraties. Donc, qu'on aille avoir des marchés avec eux, oui. Avec une extrême attention de ne pas en devenir dépendant. Parce qu'un jour ou l'autre, la dépendance, tu la paies et tu la paies cher.
C'est pareil pour Narendra Modi.
Les JO et leurs préparatifs, la RATP est-elle dépassée? Écoutez bien les GG. Les usagers des bus d'Île-de-France devront vraisemblablement acheter deux tickets à 2,50€ pendant les Jeux pour atteindre le prix de le nouveau tarif de 5€. En fait, pour des raisons de gestion, la RATP ne prévoit pas à ce stade un ticket unique à ce tarif. Hein, il faudra en acheter deux pour atteindre cette nouvelle somme juste pendant les Jeux.
Parce que c'est 5€ pour prendre le bus pendant les JO.
Voilà. Deux tickets qui devront être validés en même temps, évidemment, quoi, pour effectuer un trajet.
Parce qu'ils n'ont pas le temps de changer la billetterie?
Ils n'ont pas eu le temps de changer l'un. Alors, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est plébiscitée, manifestement. On n'a pas eu de réponse encore de la RATP, mais on se dirigerait vers cette solution à deux tickets. On s'en fout ou pas, Barbara?
Non, mais on s'en fout pas.
Désespéré.
En plus, ils vont rien comprendre.
Jérôme,
on s'en fout pas. On s'en fout pas.
Moi, je pense aux touristes chinois qui va se retrouver avec ses deux tickets. Il va essayer de cacher deux tickets.
En plus, deux tickets à 2,50€. À l'heure où
le chinois, il sait pas.
À l'heure où dans le monde entier, la plupart des tickets dans les transports en commun, c'est du numérique. C'est numérique avec ton téléphone. Va en Corée du Sud, va au Japon, tu vas voir ce que c'est.
Mais ça, c'est la France.
Mais t'imagines
on
va être le creuset du monde. On va avoir 80-100 nationalités, des langues étrangères partout. Et à chaque fois, tu crois que le chauffeur de bus va devoir expliquer dans toutes les langues du monde qu'il faut prendre deux tickets.
Surtout que les chauffeurs de bus, ils parlent déjà pas anglais, alors je vais te dire, tu veux bien partir.
Dans quel esprit malade c'est né ce truc-là, quoi.
Non, mais parce que je pense qu'ils voulaient passer à 5€, mais qu'ils n'ont pas le temps de changer la billetterie, surtout le tarif c'est uniquement pour les JO. Parce qu'ils veulent faire payer plus cher. On offre des primes aussi aux agents.
Ils veulent vraiment faire vivre les touristes à la française. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont envie que les touristes soient vraiment en immersion dans notre monde.
Acheter un pass Navigo.
Non, le monde de la bureaucratie.
Bon, les GG.
Oui.
Le tableau L'Origine du Monde, tagué hier au centre Pompidou de Metz, le mot MeToo a été inscrit en gros avec de la peinture rouge sur ce célèbre nu de Courbet. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Ah non, on s'en fout pas.
Mon cher Antoine.
On s'en fout pas.
Jérôme ?
Non, on s'en fout pas, non.
Bon, heureusement, le tableau, pardon, était protégé par une vitre. Cette action a été menée notamment par l'artiste performeuse franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis, connue pour des faits similaires. Elle avait été poursuivie et relaxée en 2017 après avoir montré son sexe, carrément, devant la Joconde au musée du Louvre de Paris. Pourquoi on s'en fout pas, Barbara ?
Ah, bah, c'est une championne du monde, ça va. Alors, elle, c'est performeuse. Déjà, c'est quoi ton boulot ? Je suis performeuse. Ouais. On prend déjà même pas ce que c'est comme travail. Ah, une
c'est
artiste,
même pas artiste,
c'était quelque
là.
Chose, parce que performeuse, ça veut rien dire. Non, mais moi aussi, je suis performeuse. Quand je vais au GG, je fais performance.
Donc, performeuse en ménage, tu nous as dit.
Ah oui, oui. Je suis performeuse. Bon, c'est une œuvre absolument magnifique, qui a une histoire absolument incroyable, qui a longtemps été une œuvre cachée, enfin, bon, qui est exposée
qui choque,
en général.
Tu sais qu'il est censuré sur Facebook.
C'est pour ça. Au contraire, il faut encore plus le montrer, et certainement pas le montrer avec cette horreur de MeToo écrit dessus, alors que c'est une œuvre qu'on devrait faire étudier. Moi, je trouve qu'on devrait le faire étudier en histoire de l'art au collège et au lycée, histoire de bien énerver ceux que ça va énerver. Oui, non, mais justement.
Les collégiens vont se cacher les yeux.
Oui, bah justement, ils se cachent les yeux déjà pour un oui, pour un non. Là, au moins, ils vont voir ce que c'est que l'art. Donc, c'est un tableau magnifique.
C'est l'origine du monde.
Et en plus, ça n'a aucun sens de mettre MeToo là-dessus.
C'est un tableau plutôt féministe.
C'est un tableau féministe. Ça n'a veut rien dire de mettre MeToo là-dessus.
C'est con.
C'est complètement
Jérôme.
À côté
non, mais
de la plaque.
C'est du terrorisme contre MeToo. Je veux dire, voilà, la meilleure façon de détruire un fabuleux mouvement, c'est ça, quoi. C'est faire monter les gens contre ce mouvement, tu fais pas mieux. Donc cette soi-disant artiste, en fait, ne fait qu'une chose, c'est parler d'elle.
Ça fonctionne plus tout,
mais elle sert absolument pas la course dont elle se fout éperdument.
Entre les jeteuses de soupe, les bloqueurs d'autoroute, etc., on en avait déjà parlé, je pense qu'il est temps de pénaliser ce type d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toléré au nom de l'art, au nom de la revendication. Non, on arrête les conneries. On s'attaque pas à une œuvre, etc., même pour de bonnes revendications. Donc, moi, je suis pour qu'on aille sur un projet de loi où on pénalise, parce qu'on arrête, quoi. Ils vont aller nous chercher toujours un truc plus
abracadabrantesque. Comment on peut entrer dans un musée encore aujourd'hui avec de la peinture ?
Avec un pinceau, elle s'est mise devant le tableau.
Non, mais le pire, c'est qu'elle en a fait plusieurs. Ouais. Elle en a fait plusieurs. Elle a fait au moins 4 œuvres. Il n'y avait personne, il n'y avait pas des gardes, il n'y avait pas rien du tout. Non, on l'a laissé peinturlurer. En plus, bon, certes, il y a des vitres, mais elle abîme les cadres aussi. Donc, ça veut dire que le tableau va être détaché,
qu'il
va falloir faire de la restauration. Non, mais c'est de la restauration de cadres.
Est-ce qu'elle laissera une pièce de 1 euro pour les gens qui nettoient derrière ?
Vraiment n'importe quoi.
Mais alors, dans ce cas-là, la sanction, à mon avis, c'est qu'elle nettoie elle-même. Elle nettoie ce qu'elle a dégradé.
Mais c'est des rebelles de bac à sable. C'est des gens qui n'iront pas aller se battre là où il faut se battre pour le droit des femmes, pour les femmes iraniennes. Tu l'entends pas, madame MeToo ?
C'est sûr qu'elle prend pas de risque.
Là, c'est sûr que là, tout d'un coup. Par contre, là où il faut aller prendre des risques, là où il faut aller avoir des actions qui sont vraiment des actions de courage et de militante, là, on n'entend plus personne. Franchement, c'est pathétique.
Merci Anaïs Sainz. Je vous rappelle, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, là, l'expérience PSG, les amis, il ne faut pas oublier. Le football. Ce soir, c'est la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Match à suivre sur RMC à partir de 18h en direct du Parc. C'est une soirée spéciale, bien sûr. Et si vous voulez gagner l'expérience PSG Dortmund, c'est-à-dire l'avant-match, le match pour deux, hein, les places au Parc, et l'après-match, dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. L'expérience PSG. Les deux places pour aller assister à la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, c'est à vivre et à gagner en direct sur RMC et RMC Story en regardant et en écoutant les GG, les grandes gueules. Vous envoyez PSG par SMS au 732-16. À suivre maintenant dans les grandes gueules, deux petits sujets de discussion. Avant l'arrivée de la flamme à Marseille, 8 arrondissements où on ne ramasse pas les poubelles. C'est parfait, on passera un petit coup de fil à Eric Dimeco. Et puis,
il n'y est pour rien.
Comment ?
Il n'y est pour rien, Eric.
Non, mais lui, il va porter la flamme. Mais il le vit. Et 99% des ralentisseurs en France seraient non conformes. Le scandale des ralentisseurs sur les routes. 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.